Bonjour, merci infiniment d'être là pour cette dernière journée de la quatrième édition de l'Hyper Weekend Festival. Une édition magnifique qui va se conclure en beauté, je le sais, ça va être un bouquet de feux d'artifice un peu partout dans cette maison, comme depuis trois jours, du 22e étage jusqu'ici à l'Agora, en passant par les salles de spectacle ou les foyers qui, cette année, ont affiché complet, ont écrit chacun leur petite histoire sur des grands moments de performance artistique. Merci aussi d'être au rendez-vous, ces rendez-vous de fin d'après-midi qui sont précieux, puisque ce sont des rendez-vous d'échange dans un lieu qui s'appelle l'Agora. On ne pouvait pas mieux choisir pour imaginer des rencontres que d'occuper cet espace qui habituellement est un espace où, de circulation uniquement. Alors même s'il est un peu matrixien comme ça, il n'est pas aussi matrixien tout au long de l'année. Et on est très très fiers de pouvoir rencontrer aussi les artistes qui sont impliqués dans le festival. Alors depuis le premier jour, on a eu pas mal d'artistes qui ont raconté les coulisses de la création de leur spectacle pour l'Hyper Weekend Festival. Et pour terminer en beauté, il y a une création exceptionnelle dont je rêvais depuis le début du festival et qui cette année s'est réalisée. J'ai un peu réalisé tous mes rêves, donc je suis assez heureux. C'est chaque année d'avoir un artiste qui prend possession des cuisines du Radio Hit, qui est au premier étage de la Maison de la Radio et de la Musique. Et je vous conseille d'y aller parce que le restaurant est bon habituellement. Là, il est encore meilleur et vous allez comprendre pourquoi. Et il est bon et en plus, il bénéficie d'une vue majestueuse sur la Seine, le centre Beaugrenelle qui, de jour, est assez laid, mais la nuit, on a l'impression d'être dans un petit New York. Et puis, évidemment, avec cette tour Eiffel qui scintille dans la nuit et qui donne évidemment à ce décor quelque chose de tout à fait singulier et qui fait la beauté de cette ville. Ce qui fait la beauté de cette édition, c'est que Laurent Garnier a accepté cette année de troquer ses platines pour mettre un très beau tablier qu'il ne quitte plus jamais. Je le vois plus avec son tablier qu'avec un t-shirt FIP. Mais là, il a repris ses atours, je dirais, de la maison. Il l'a joué très corporate et je le remercie. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas de t-shirt Hyper Weekend Festival. Donc voilà, c'est un message aussi qu'il nous envoie, mais on est très fiers aussi qu'il porte ce sweat FIP, puisque vous le savez, depuis le début de la saison, il a rejoint l'équipe de FIP pour ses fabuleuses Deep Search qui nous enchantent et qui nous emmènent dans le sens de la hauteur dès lors qu'on a une telle tête chercheuse pour ça, pour nous guider dans ce foisonnement de musique qui arrive tous les jours. Mais c'est vrai que cet exercice d'être aux commandes d'une cuisine avec ses camarades des valseuses, c'est un exercice un peu atypique, singulier, et qui fait partie de l'ADN du festival, puisque je dis à tous les artistes, allez, on sort de son territoire pour aller investir un autre territoire. Et celui qui l'investit là est un territoire succulent. D'ailleurs, je n'ai pas encore totalement digéré ma... Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, mais j'ai trop mangé, c'est trop bon. Les gyozas. Alors, en fait, il y a deux entrées, j'ai mangé les deux entrées. Il y a deux plats, j'ai mangé un plat et demi. Et je n'ai pas mangé les desserts, je les ai amenés à mon bureau pour l'after. Mais donc, c'est vous dire à quel point les pupilles sont exaltées par cette formidable cuisine que nous propose Laurent Garnier. Et cette exaltation, ça fait maintenant 30 ans, si j'ose dire, qu'il l'amène aux platines avec des productions imparables et des sets de DJ qui font partie de mes plus beaux souvenirs d'électrons libres. Suivez mon regard. Alors, je suis ravi d'accueillir Laurent Garnier. Je suis sûr aussi que vous êtes ravis de le rencontrer. Et je suis d'autant plus ravi que c'est Alexis Bernier, une autre de mes références, un autre de mes piliers, qui va animer cette rencontre. Ce n'est pas une masterclass, c'est une hyper rencontre. Et Alexis Bernier, c'est le directeur de la publication de Tsugi, mais aussi qui dirige Tsugi Radio, qui a rejoint le groupe D3 Média et qui a fait quelques années avec moi des bêtises dans la radio publique France Inter, pour ne pas la citer, dans une émission qui s'appelait Électron Libre et qui nous a rapprochés. Et depuis, on ne s'est plus jamais quittés. Voilà. Merci infiniment d'accueillir Alexis Bernier et Laurent Garnier.
Bonjour. Voilà Alexis Bernier, je vous le présente.
Laurent, vous mais vous le connaissez déjà. Alors, est-ce que ça marche hein? Vous m'entendez alors, je crois que Didier a un peu tout dit, parce qu'il a un peu grillé mes cartouches. On est dans un festival de musique et tu joues pas de musique.
Non, pas. Désolé, je suis un peu fatigué, donc j'ai la voix un peu...
C'est un peu...
Non, pas aujourd'hui, mais c'est Didier qui m'a demandé de venir et de faire un truc différent. Puis alors ça me plaît.
J'imagine, mais c'est un truc différent, c'est-à-dire la cuisine. C'est, tu es venu avec ta brigade du restaurant Les Valseuses,
ouais,
dans le sud, à côté
ouais
de chez toi.
Ouais.
Mais c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément toujours, mais qui n'est pas totalement nouveau pour toi, ce travail en cuisine.
Non, parce que, alors en cuisine, un peu quand même, c'est surtout depuis le Covid. Mais moi, j'ai fait l'école hôtelière, en fait. J'ai un CAP et BEP dans l'hôtellerie. Et donc, c'était mon tout premier travail. Pour ceux qui ont lu mon bouquin, j'ai commencé à Londres, à l'ambassade de France, après avoir fait l'école hôtelière. Et puis, assez rapidement, à cause de la musique, j'ai vrillé et j'ai commencé à jouer en tant que DJ. Mais j'ai toujours aimé bien manger, j'ai toujours aimé boire du vin avec beaucoup de sulfite, ça tu le sais.
On va en parler.
et c'est vrai que pendant le Covid, je me suis fondamentalement emmerdé pendant un ou deux mois parce qu'on n'a pas pu bosser pendant longtemps. Et comme j'ai mes copains de ce restaurant à Apt qui s'appelle Les Valseuses, et ils avaient deux chefs japonaises à l'époque et que j'adore la cuisine japonaise, je leur ai dit mais vous voulez pas que je vienne couper des carottes et puis voir comment ils font les sauces et voir comment ça se passe. Et en fait j'ai fait deux ans là-bas avec cette équipe qui est incroyable, super drôle, et on s'amuse beaucoup mais on fait des belles choses. Et quand j'ai recommencé à bosser la nuit, je leur ai demandé si je pouvais continuer une fois de temps en temps à venir au resto, et voilà. Je continue une fois tous les deux mois, je vais là-bas et on travaille tous ensemble.
Mais tu parlais de ton expérience à l'école hôtelière, mais à l'époque...
Je faisais pas de cuisine. Hein,
j'étais pas de
non,
cuisine.
Non, j'étais en salle, j'étais serveur.
Ouais.
J'étais serveur.
Et ton expérience, ta découverte de la cuisine, on va en parler parce que je sais que
je crois,
dans ta
je crois
famille...
Je crois que tu as dû goûter, un des premiers plats qu'on a dû faire. En fait, moi, j'ai commencé à cuisiner parce que je voulais absolument pas cuisiner, parce que tout le monde, comme j'aime pas faire comme tout le monde, à l'école hôtelière, tout le monde voulait faire de la cuisine. Donc, moi, je me suis dit, non, je fais la salle et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, j'ai mis très longtemps avant de commencer à cuisiner. Et bizarrement, hyper bizarrement, j'ai commencé à cuisiner avec les bouquins de Jamie Oliver, d'un anglais quand même. Après, je trouvais ses bouquins super et j'ai trouvé son travail vraiment intéressant en Angleterre où il a essayé de changer la cuisine à l'école. Enfin,
oui, il a eu un rôle très important sur la gastronomie anglaise, parce qu'il n'est pas, en tout cas pour nous Français, qui n'est pas un pays réputé de gastronomie,
non,
mais
non,
Jamie Oliver, avec ses restaurants, ses cours, ses livres, a vraiment été un de ceux qui
Il a fait beaucoup de bien. Et puis, il a un côté un peu rock'n'roll qui me plaisait bien, et donc j'ai commencé à cuisiner comme ça. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis acheté des bouquins, j'ai cuisiné un peu à la maison, mais je suis pas chef, rien du tout. Moi, je suis un bon commis, en fait. Je suis clean, je suis un commis, tu me demandes de couper comme ça, je coupe comme ça, et je peux faire des grosses... voilà.
Mais ce goût pour la cuisine, c'est quand même... puisque tu le rappelles, quand tu étais à l'école hôtelière, tu ne cuisinais pas. Ce goût pour la cuisine, il est venu aussi pendant les voyages.
Forcément,
DJ,
forcément.
T'as goûté énormément de cuisine.
On a la chance de voyager un peu partout dans le monde, et forcément, quand t'aimes bien manger, on t'invite et tu goûtes des choses incroyables. Et plus tu voyages, et plus tu découvres des choses. Et comme je suis assez curieux par rapport à la cuisine, après, je fais partie d'une famille où il y a de la restauration, c'est-à-dire que
ton frère avait un restaurant.
Mon frère a eu trois restaurants différents. Mes grands-parents avaient un restaurant. Ils avaient un château-hôtel, une auberge qui était château-hôtel. Et donc, j'ai découvert la cuisine et puis ce que c'était que la restauration quand j'étais tout petit, en fait. Donc, ça fait partie de ma vie.
Mais si je parlais de tes voyages, c'est parce qu'il y a aussi quelque chose qui me semble important dans ton goût pour la cuisine. C'est que ce que tu, j'ai l'impression que tu as une grande tendresse pour les saveurs asiatiques.
Ah oui, je te confirme. Tu le sais.
On a été au Japon ensemble. C'est aussi pour ça que je parle de tes voyages et de la cuisine que tu aimes et que tu aimes faire aujourd'hui.
Mais c'est pour ça en fait que j'ai approché les Valseuses pendant le Covid. C'est qu'en fait, non seulement c'est une équipe géniale, mais en plus de ça, il y avait deux chefs japonais. Et là, c'était le meilleur moyen pour moi de comprendre quelles étaient les bases Et donc j'ai dit à Pierrot, j'ai dit, mais tu veux pas que je vienne? Moi, j'aimerais bien juste apprendre. Je veux apprendre les sauts, je veux apprendre des conneries, mais que je puisse intégrer ça dans mon quotidien. Voilà, plutôt que d'utiliser des ingrédients de base, j'aimerais bien savoir comment, avec quels ingrédients ils travaillent. Et puis, le Covid a duré longtemps, donc je suis resté là-bas 2 ans. Et c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup la cuisine asiatique, c'est vrai.
Et ce qu'on appelle la cuisine fusion aujourd'hui, c'est-à-dire ce mélange un peu international.
C'est ce que je fais avec la musique, Alexis.
Oui, mais en fait,
je fais la même chose.
Tu me devances sur le parallèle avec...
Non, mais je le voyais venir, je connais le journaliste. Oui, bien sûr, c'est la même chose avec la musique.
Non, mais au-delà de la musique, puisqu'on est toujours sur la nourriture, qu'est-ce qui te plaît tant dans la cuisine asiatique, dans les saveurs asiatiques?
C'est pas la cuisine asiatique, ce qui me plaît dans la cuisine en général, et dans la... pour moi, le métier de la restauration et le métier que je fais derrière les platines, on fait la même chose. On fait du bien aux gens et on leur fait passer un moment plutôt spécial. Et très souvent, je pense qu'on a tous des plats. On a été au resto et puis un jour, tu te rappelles du plat, mais 10 ans, 15 ans après, ah oui, j'ai été dans tel resto, dans telle région, je me suis retrouvé dans tel resto et j'ai mangé tel plat. Moi, je sais que j'ai des souvenirs de plats où j'ai eu les larmes aux yeux. Je me rappelle bien de ça, je me rappelle bien des disques à certaines soirées. Voilà, c'est des marqueurs forts et je trouve que c'est que du partage, en fait. C'est que du bonheur et c'est vraiment des moments importants. Donc, pour moi, c'est la même chose. C'est le même métier.
Tu parlais de ces...
Même genre de métier.
Tu parlais de ces saveurs qui peuvent t'émouvoir profondément. Je sais qu'il y en a une qui te touche beaucoup, c'est la saveur de la rose.
Ouais. Ouais.
Et tu ne sais pas vraiment pourquoi.
J'ai aucune idée d'où ça vient.
C'est-à-dire que tu manges un loukoum ou à la rose et tu pleures.
Je peux pleurer. Ouais. C'est hyper chelou quand même. Non mais c'est vrai, une fois j'étais dans un restaurant en Bretagne et on a vraiment hyper bien mangé et les desserts, il y avait une dizaine de desserts, c'était que des petites cuillères et à un moment il y avait une cuillère, je l'ai prise, je l'ai mangée et là, mais vraiment j'ai pleuré. Et je me suis dit, pourquoi cette saveur-là me touche autant? Je ne sais pas. Voilà, ça doit être un truc qui vient de mes grands-parents, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Et c'est vrai que ça m'émeut toujours beaucoup quand je mange un truc où il y a de la rose.
Et aujourd'hui, il y a une spécialité. Enfin, ça fait depuis qu'on parle de cuisine et que tu travailles aux valseuses, il y a un truc qui revient toujours, c'est les gyozas.
Ouais, parce que Mitsuko, elle déteste plier les gyozas, ça l'emmerde. Et c'est vrai que les gyozas, c'est cool, hein, manger des gyozas.
Mais là, tu peux rappeler ce que c'est exactement? C'est des petits pâtés.
Oui, c'est des petits, beignets. En fait, d'abord on les frit, puis après on les passe, on met de l'eau et on les cuit aussi dans l'eau. Et c'est une, alors s'il y a une farce avec de la viande et puis alors on peut faire végétarien, mais normalement c'est plutôt du porc ou du bœuf. Et puis après, avec quelques ingrédients, du chou et des choses comme ça. Mais par contre, c'est très long à plier, c'est hyper long. Et là, depuis 2 jours, on en a plié 2000. Et je me suis fait la moitié, parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc c'est vrai que moi, j'aime bien, j'adore plier les gyozas, puis je trouve qu'il y a un truc très méditatif. Pendant 4 plombes, je suis avec mon bol de viande, et je plie, et j'écoute de la musique, et c'est cool. J'aime bien.
Et tu penses à rien d'autre?
Je pense à mon pliage. Ou alors j'engueule Mitsuko si ce qu'on écoute, c'est pas assez bien et donc je zappe beaucoup parce que je laisse Mitsuko jouer sa musique.
Choisir la musique et ça entraîne les mouvements de la cuisine ou pas, ou des cuisiniers ou
c'est, alors c'est forcément... assez drôle parce que la playlist de Mitsuko est assez variée. On passe du disco japonais au punk, à des trucs techno, du reggae et tout. Donc, c'est un peu tout ce que j'aime, c'est vachement bien. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas approprié. Là, ce midi, il y a eu 3-4 morceaux qui sont arrivés. Et là, j'ai dit à Mitsuko, je pense que ce n'est pas le moment. Là. Il faut qu'on change. Puis après, la fatigue fait que tu prends pas la musique de la même façon.
J'aurais qu'on parle un peu de vin, parce qu'on a un grand désaccord entre nous. Et
c'est pas entre nous, c'est entre moi et beaucoup d'autres gens.
Voilà.
C'est ça. Hein,
ouais.
D'où le titre « Give me some sulfite ». Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce titre-là. Tu veux que je te raconte l'histoire de ça?
Je veux que tu nous dises effectivement que tu affirmes avoir détesté ce qu'on appelle les vins nature.
C'est-à-dire ouais,
les vins faits avec très peu de sulfite, un peu à
ceux qui sentent le cul du cheval.
Oui, c'est ça. La vache, enfin, il y a plein d'expressions.
Ouais, ça va mieux, hein. Franchement, ça va mieux.
Mais
ça
oui, parce que j'étais surpris l'autre jour dans un post Instagram.
Les blancs, j'arrive à boire des blancs nature, mais c'est vrai que les rouges, en fait, j'aime bien les vins hyper corsés, j'aime bien les vins super forts.
Mais en dessous de 15 degrés, ça ne t'intéresse pas, quoi?
Non, non. c'est vrai, j'aime bien les trucs un peu forts, et je crois que dans le vin nature, sur les vins rouges, à cause des histoires de conservation et tout, je pense qu'ils n'y sont pas encore exactement. Mais ça va beaucoup, beaucoup mieux. J'ai commencé à boire des choses. Alors, bien sûr, plus on en parle, plus il y a des potes qui disent « Non, mais je vais trouver ce qu'il te faut. » Et pour la petite histoire, pour le « Give me some sulfite », on était au Japon. Tu n'étais pas là. J'étais avec Vincent Carrier des Nuits Sonores. Et Vincent, il est fou de vin nature. Et donc, c'est une grosse bataille avec beaucoup de mes potes parce qu'ils sont tous dans le vin nature. Et ils essayent tous à chaque coup de me faire boire des bouteilles de vin nature.
Tu veux dire que tu es copain uniquement avec des bobos branchés ?
Que ça. Que ça. C'est dur. Parce que lui, il adore le vin nature aussi, c'est pour ça. Et donc, on était dans ce resto, et on était dans un resto où le chef japonais parlait très bien français. Et lui, il a que des pifs nature. Et Vincent me dit, tu vas voir, il va te trouver une bouteille. Forcément, il y a tellement de choses chez lui, il va te trouver une bouteille. Et à chaque coup qu'on va dans un resto où on leur dit, je ne suis pas très fan... C'est des espèces de quêtes pour les gars qui ont le resto. Non, non, mais je vais te trouver un truc. Et donc, il ouvre une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles, cinq bouteilles. Et puis, ouais, pas ça, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Bon, il a pas trouvé la bonne bouteille. Et à la fin, il me dit, j'aimerais bien que tu viennes signer mon mur. Et donc, je lui dis, ouais, avec grand plaisir. Et donc, il y avait plein d'artistes qui avaient signé. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux marquer comme connerie ? Et je lui marque, give me some sulfite. Et là, le gars, il passe devant, il me dit mais vous pouvez pas faire ça. Il était outré, mais vraiment outré. Et ça m'a fait tellement rire. Je suis revenu à table, j'étais mort de rire. J'étais très content de ma connerie.
Ça m'étonne pas de toi.
Et voilà. Et donc, j'ai dit à Vincent, tu sais quoi, j'ai le titre de mon prochain morceau, ça va s'appeler Give Me Some Sulfite. Voilà, c'est un clin d'œil à ce resto japonais, où d'ailleurs, j'avais bu une très, très bonne bouteille de blanc nature.
Ouais, alors justement.
Japonais.
Ouais. En parce plus. Que même les Japonais sont mis au vin nature.
Ils sont à fond. Ils sont à fond là-dedans.
Que dire ? Non, mais justement, on parlait du goût de la rose et de l'émotion que ça t'avait donné. Il y a un vin, t'as un souvenir de vin, là, comme ça, qui te revient ? Pas forcément nature, on a compris.
Qu'est-ce que j'aime bien ? Bah, le château Beaucastel, c'est pas mal. Hein. On travaille avec eux, avec le festival. Je fais un petit festival dans le sud de la France et on a une des personnes qui nous aide sur ce festival. Qui sont vignerons, qui font des très belles choses, qui ont aussi des choses beaucoup plus normales, c'est-à-dire que c'est eux qui font le vin qui s'appelle la vieille ferme, que tu trouves un peu partout. Et ils s'occupent aussi d'ailleurs du domaine de Brad Pitt, donc où il y a le... Je ne sais plus comment il s'appelle, le vin là-bas.
Le rosé,
ouais,
il l'a pas revendu ?
Non, c'est toujours à lui. Et, exactement, Miraval, c'est ça ? Et en fait, ils ont refait les chais, ils nous ont fait visiter le domaine. C'est très beau d'ailleurs, le château est magnifique. Et eux, ils ont un domaine où ils font un vin qui s'appelle le Beaucastel. Et ça tue. C'est vraiment... Mais d'ailleurs, là, on a un très très bon Bordeaux blanc qui est absolument dingue là-haut. Il est un peu cher, mais il est vraiment top. En fait, on est venu avec la brigade des valseuses, mais on a aussi emmené des vins de chez nous, et notamment un vigneron qui est à Apt, donc où il y a le restaurant, qui fait des très bons vins, mais comme il est assembleur, il a aussi un vignoble dans le Bordelais, il travaille aussi dans le Bourgogne, et c'est vrai qu'on a fait une dégustation chez lui, et puis à un moment, il nous a dit, bon, j'ai un Bordeaux blanc... Il est un peu cher, mais je vous le fais goûter. Et quand on l'a goûté, on a dit, on va prendre quelques bouteilles, on va l'emmener ici. Et il est assez exceptionnel.
Ben merci du conseil. Voilà. Mais ça te...
Tu viens manger ce soir ?
Ouais.
Voilà.
Ça te frustre pas, là, quand tu vois toute la programmation, de pas jouer, de pas faire de musique ?
Ah, pas jouer, non. Ce qui me frustre, c'est de pas pouvoir aller voir un concert. Ce matin, ma femme, elle m'a dit, mais... T'as vu un concert ? Je lui ai dit, mais on passe 18 heures en cuisine. Je ne suis pas sorti. On arrive à 8 heures le matin, on y est jusqu'à minuit. Je lui ai dit, j'ai rien vu. Alors ça me frustre. Ça m'emmerde d'être dans un festival de musique et de ne rien voir. Après, ce qui est cool, c'est qu'avant de venir, comme je connais bien Didier, je me suis dit, il faut que je fasse mes devoirs. J'ai écouté la musique de tous les artistes qui sont là. Donc ça, c'était, bah oui, pour que je puisse dire à Didier, c'est quand même vachement bien ta progrès, c'était super. Parce que je connaissais pas tout, donc je voulais juste savoir un petit peu quand même ce qui se passait. Bon, j'en connaissais quelques-uns, mais pas tous. Et donc j'ai fait mon travail, j'ai écouté. Ouais, ce qui me frustre, c'est de pas aller voir des concerts. C'est vrai, quand t'as Georgia Smith qui est là, et juste à côté, et toi, t'es en train de plier des gyoza, tu te dis, merde, j'irais bien quand même voir un petit peu de son concert. Bon.
Puisqu'on parle de musique, c'est difficile de pas te questionner un peu sur ton dernier album.
Dont le titre, tours et puis s'en vont.
Voilà, tu cites le titre toi-même qui est un titre, on pourrait dire lourd de sens.
Et il l'est.
Voilà. Donc tu vas nous en dire un peu plus, mais c'est vrai que c'est un album qui est important pour toi, enfin je pense, et qui a déchaîné une certaine frustration parce que tu n'as pas pu le défendre comme tu l'aurais souhaité.
Moins qu'on puisse dire.
Voilà.
On rentre dans les trucs sérieux là, c'est ça ?
Bah, il fallait bien qu'on y arrive un jour, ou à un moment.
Ok. Ok. Le Covid arrive. C'est drôle, j'écoute de la techno et de la musique électronique depuis très très longtemps et je défends cette musique depuis très longtemps. Et pour la première fois de ma vie, à l'arrivée du Covid, je me rappelle très bien le jour où ils ont fait le premier confinement. Je me suis assis sur le lit de mon fils et je lui ai dit, pour la première fois de ma vie, je ne peux pas te dire où on va. Parce qu'on aime bien discuter. Et je lui ai dit, je ne sais pas où on va. Donc là, j'ai l'impression d'être dans un tunnel. Et on ne sait pas où va être la lumière. Et donc je lui ai dit, à mon avis, ça va être long. Bon, voilà, c'était le début de tout ça. Toujours est-il que rapidement, ne sachant pas du tout où on va, je fais un espèce de rejet total par rapport à la techno. Parce que pour moi, cette musique a toujours été un peu la musique du futur, la musique qui parlait de la suite, de l'avancée. Et là, je me suis dit, on ne sait pas où on va. Et je ne trouvais absolument pas approprié de ni sortir des disques techno, ni écouter cette musique-là. Il n'y avait plus de sens pour moi.
Oui, et puis au-delà de ça, tu trouvais qu'elle tournait un peu en rond.
Oui, mais c'est surtout le fait qu'en fait, pour moi, la musique, il faut que ce soit approprié par rapport à une période, à quelque chose. On ne peut pas écouter de tout n'importe quand. Et là, j'ai fait un rejet total et j'ai arrêté d'écouter cette musique-là pendant plus de 6 mois. D'où le premier travail que j'ai fait pendant le Covid, c'est l'album que j'ai fait avec les Liminanas. Et puis en bossant avec les Limi, on a écouté beaucoup de soul, on a écouté beaucoup de musique psychédélique parce que j'aime bien ça aussi. Et en fait, j'ai eu l'impression de revenir à mes racines. Donc j'ai écouté de la chanson française et je suis revenu à la musique dite dance floor par la house music, donc par plutôt le côté noir de cette musique-là. Et au bout de peut-être un an, c'est là où j'ai commencé à sentir la frustration. Il est où le dance floor ? Je me nourris avec les gens et avec l'énergie qu'on arrive à créer dans les soirées. C'est ma drogue. Et donc là, au bout d'un an, ça a commencé à fondamentalement me titiller. Et c'est là où je me suis dit, peut-être que ça serait bien quand même que je recommence à faire un peu de musique. Mais pendant toute cette période, parce que la période a été très longue, en tant qu'artiste à mon âge, je me suis posé vraiment la question plein de fois en me disant, en fait, est-ce que je repars après le Covid ? Est-ce qu'il y a du sens par rapport à ça ? Parce qu'il y avait tous les artistes émergents qui arrivaient et qui faisaient plein de trucs sur le net, plein de jeunes artistes. Et moi, on m'a demandé plusieurs fois de faire des sessions filmées chez moi et j'ai dit, ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, ça n'avait pas de sens que j'aime construire avec les gens. Et faire mon truc tout seul dans mon studio ou dans ma chambre, enfin, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Et donc, j'ai refusé de faire tous ces trucs-là. Et je me suis énormément posé la question en me disant, il y a plus en plus de mecs qui arrivent. Est-ce que vraiment ça a du sens que si moi, je repars à mon âge, et si jamais je repars, qu'est-ce que j'emmène ? En fait, qu'est-ce que j'ai fait pendant le Covid ? Et c'est là où j'ai commencé à faire de la musique, en me disant, OK, je vais repartir. Et il faut que je vienne avec quelque chose. J'ai créé quelque chose pendant cette période qui a été très longue. Et donc, j'ai fait plusieurs morceaux. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que j'avais une quinzaine de morceaux. Et là, je me suis dit, je vais en faire un album. Mais il y avait aussi toute cette réflexion de qu'est-ce que ça veut dire de vieillir dans ce milieu-là, où il y a quand même un public qui est beaucoup plus jeune que moi et tout ça. Et c'était quoi le sens de tout ça ? Est-ce que j'avais ma place ?
Ouais, je précise quand même une chose. Hein,
parce qu'on
se connaît depuis 30 ans. Et en fait, moi, ça fait pas 30, mais au moins 15 ans que j'entends Laurent Garnier me dire, mais est-ce que j'ai encore ma place ? Est-ce que ça a un sens de continuer à jouer ?
Mais c'est normal de se poser des questions.
Je ne m'engueule pas, je précise, je raconte juste.
Non, mais il me le sort à chaque coup. Je dis,
ces questionnements sont anciens chez toi, mais c'est vrai qu'ils ont pris, au moment du Covid et autour de cet album, une acuité beaucoup plus forte. Et que le titre que tu lui as donné, 33 tours et puis son bon, est quand même très révélateur.
J'y arrivais. Et donc, en fait, à un moment, même avant le Covid, je me suis toujours posé la question, quand est-ce que je vais m'arrêter ? Mais il faut bien s'arrêter un jour quand même. T'as envie qu'on en parle, c'est ça ?
J'ai pas forcément envie qu'on s'en parle, mais... Mais je veux, tu veux
non, mais on en parle souvent depuis longtemps. Et Christian, mon agent avec qui j'ai travaillé pendant des années, que tu connais très bien, j'ai toujours dit à Christian, tu sais, il faut garder en tête que la musique qu'on défend peut peut-être changer du jour au lendemain, parce que quand on regarde l'histoire de la musique et des changements des styles et des modes, nous, on a eu la chance de ne pas se faire démoder, on va dire, depuis 30 ans, mais si on regarde la musique depuis les années 50, entre les années 50 et les années 80, il s'est passé une dizaine de changements et de révolutions musicales. Moi, j'ai toujours pas eu peur, mais j'ai toujours dit à mon agent et aux gens avec qui je travaille, il ne faut pas se reposer sur nos acquis, parce que tout peut changer, on peut devenir des vieux cons du jour au lendemain. Et donc,
je le confirme.
C'est clair. Et donc, j'ai toujours dit, il faut faire attention à ce qu'on ne devienne pas poussiéreux ou qu'on ne devienne pas des espèces de vieux jukebox qui essayons de défendre notre truc depuis toujours. Donc, je suis conscient que tout ça peut changer. Donc, depuis des années, je dis attention, je ne sais pas combien de temps ça va durer. On a de la chance, ça a duré toutes ces années. C'est génial pour nous et puis on a pu en profiter. Et c'est aussi la musique qu'on défend. Donc c'est tellement heureux après 35 ans, presque 40 ans derrière les platines à défendre cette musique-là qu'elle existe encore aujourd'hui et qu'elle ait encore du sens. Pour moi, il faut toujours qu'il y ait du sens. Et donc avant le Covid, déjà, je me posais la question de quand est-ce qu'il va falloir que je... Quand et pourquoi et comment je vais m'arrêter un jour. Le Covid, il y a eu... Je pense qu'on s'est tous posé des questions pendant le Covid parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements. Et donc j'ai travaillé sur ce disque et l'idée c'était de sortir un disque et de dire à mes fans qui me suivent depuis très longtemps, avec qui j'ai un rapport assez fort parce qu'on construit ensemble depuis longtemps et puis nous on a beaucoup de respect, avec mon équipe on a beaucoup de respect, on travaille beaucoup avec les fans, avec la communauté. Et l'idée c'était de dire ok, 33 tours et puis s'en vont, je vais encore faire un petit tour, enfin quelques tours, mais je vais bientôt m'en aller, il faut être conscient de ça. Et... La vie fait que je prépare mon album pendant le Covid. Après le Covid, je repars un peu sur les chapeaux de roue. Je dois sortir un disque. Et un mois avant la sortie de mon disque, je tombe malade. Et donc, je ne peux même pas faire un seul interview pour raconter aux gens cette histoire. Et ça, c'est dur. Ça a été un moment très, très difficile. Parce que je sors mon disque quand moi, je suis à l'hôpital. Et je raconte rien à personne. Donc le 10 sort, les gens disent « Ah bah super, le titre, on ne comprend pas pourquoi » et je n'ai pas pu m'exprimer en fait.
Oui, moi je ne vais pas parler à ta place, mais je suis témoin de ce moment-là puisqu'on était en train de faire, nous, un hors-série du magazine Tsugi que je vous conseille si je fais un peu de promo, bref. Et on sentait bien que ce disque était important pour Laurent et moi je fais partie des gens, mais je ne suis pas le seul qui pense que cet album est vraiment le plus personnel et le plus réussi de Laurent pour plein de raisons. Et c'est vrai qu'on a senti tout de suite la frustration de ne pas pouvoir le présenter, l'expliquer. Surtout qu'il avait un titre fort, parce que le titre implique, comme tu viens de le dire, que bah, ça ne va pas durer 107 ans encore. Et là, il y a eu la disparition. 6 mois, aucune interview, aucune présentation du disque.
9 mois, même. Je suis parti pendant 9 mois. Ouais.
Mais c'était alors après, tu as recommencé comme avant.
Alors en fait, quand on annule du jour au lendemain 9 mois de tournée, on doit des choses à des gens. Et donc forcément, je savais qu'après, j'allais devoir...
Tu en parles comme d'un devoir. Tu non, c'est pas un devoir. Énormément de plaisir quand tu as recommencé à jouer.
Non, le début, ça a été très difficile parce que j'étais pas prêt à repartir sur des grosses jauges et sur des gros événements. Parce que tu sais très bien qu'en plus de la maladie, j'ai eu des trucs dans ma famille un peu difficiles. Et quand on tombe malade, on ne peut que se concentrer sur soi-même et pas sur ce qui se passe autour. Et il s'est passé des trucs. Il y a eu quand même quelques vagues chez moi. Et c'est vrai que tout est arrivé en même temps. Donc, c'était une bonne période de merde. Et je me suis dit, il faut absolument que je reparte parce que ça y est, je vais mieux, je vais repartir. Et les 3 premiers mois, j'ai eu l'impression de faire des dates, mais juste pour ne pas faire face aux choses. Et donc maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai travaillé et je travaille toujours avec quelqu'un qui m'aide beaucoup. Mais je me suis un peu noyé dans le truc. Et c'est vrai que les 3 premiers mois, j'ai trouvé ça très difficile. Ça a été dur. Et j'ai dû quand même, parce que je respecte beaucoup les gens avec qui je travaille, donc j'ai dû faire les dates que j'avais annulées. Je les ai faites l'année d'après. Et donc, je me suis retrouvé sur des jauges qui étaient peut-être trop grosses par rapport à ce que je pouvais prendre. Pas physiquement, mais plutôt mentalement ou psychologiquement, j'étais pas prêt à repartir avec tous ces gens-là sur les premières dates, ça a été dur.
Oui, parce que tu as une particularité, c'est que ce que tu aimes, c'est être proche du public dans des jauges petites.
Ouais.
Et ce qui était le point de départ un peu de la scène électronique, hein, dans les clubs ou les rêves, on n'était pas du tout dans ce gigantisme qui
j'ai
est
jamais
devenu
été,
celui
en fait.
De l'EDM. Ouais. Et tu n'as jamais été là-dedans.
J'ai fait des grosses jauges, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Moi, j'aime les clubs, j'aime être proche des gens. C'est ce que j'ai toujours aimé, parce que pour moi, le seul truc, c'est le partage avec les gens. Et à partir du moment où on est dans un petit endroit comme ça, je vous vois tous, et là, je sais que ça se passe bien. Et c'est vrai que quand on est devant 3 ou 4 000 personnes, OK, je vois des bras loin, là-bas, mais je ne vois pas les sourires, je ne vois pas... Et ça, c'est hyper important pour moi.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une dérive un peu de cette scène quand tu vois des festivals que je ne nommerai pas avec des feux d'artifice, 4000 personnes, des DJ qui mixent les bras en l'air. Est-ce que tu n'es pas un peu embarrassé vis-à-vis de tout ça? Je pense que ce n'est pas ta culture, ce n'est pas ta scène.
Non, je ne suis pas embarrassé parce que je n'ai pas l'impression de faire partie de ça. En fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'avant le Covid, on va parler de la scène EDM, en fait, c'est par là que c'est arrivé. On se sentait, nous, tellement différents de la scène EDM, j'avais l'impression qu'il y avait une route entre les deux. Il y avait l'EDM et puis les mecs qui faisaient de la house ou de la techno plutôt underground. Et c'est vrai qu'après le Covid, il y a eu une arrivée de plein de jeunes DJ où tout s'est mélangé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à comprendre où est la ligne. Truc vraiment, vraiment hyper commercial où tu sais très bien, Alexis, que ces gars-là, ces DJ-là auraient pris des tomates s'ils avaient fait ça il y a 10 ans. C'était même pas concevable il y a 10 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la ligne, elle est difficile à comprendre. Et donc, oui, quand je regarde les réseaux sociaux, je me sens absolument pas concerné. Et c'est aussi pour ça que bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire quand je suis revenu après ma maladie. Et maintenant, je me concentre surtout sur des clubs, sur des petits clubs. Alors, sauf là, vendredi dernier, j'étais au Miamao parce que c'était l'ouverture d'un nouveau club. C'est un ami à moi qui ouvre ça. Mais le Rec, je me suis beaucoup plus éclaté.
Le Rec, c'est avec Jeff Mills, à l'occasion de la.
La soirée de Cyril. Et on s'est tellement marré qu'on a joué jusqu'à 9h20 du matin. Donc, et c'était génial parce qu'on était avec les gens et il y a des gens qui pleuraient, il y a des gens qui chantaient. Enfin, c'était hyper émouvant, mais nous, on s'est éclaté parce qu'il y avait tous les DJ étaient là avec nous et on a passé une soirée tellement sympa.
Mais tu en parles avec beaucoup d'émotion et en même temps, je sais, parce que tu me l'as déjà dit, que tu as quand même un peu envie de lever le pied, non?
Ah oui, mais je te confirme. Donc en fait, l'histoire du 10, je l'ai sorti. J'avais quand même un plan. L'idée, c'était de faire encore un an et demi avec la sortie du disque en tournée et après me calmer. Donc, c'est-à-dire, j'aurais dû me calmer cette année. 2025, ça devait être l'année où je me calmais un peu. Et donc, j'ai dû reporter ça de un an. Donc là, je vais tourner normalement cette année. À partir de l'année prochaine, je vais faire franchement beaucoup moins. Je vais faire, à mon avis, 5-6 dates dans l'année, c'est tout. Plutôt des petits trucs, des trucs un peu spéciaux. Parce que je vais avoir 60 balais, Alex. Il y a un moment où moi, me lever à 2h, 3h du matin, j'adore jouer. Vraiment, c'est un kiff total. Mais je pense que je peux quand même passer de la musique, partager de la musique autrement que derrière les platines.
Oui, c'est ce que tu fais sur FIP.
C'est ce que je fais avec FIP, mais c'est ce que j'ai fait aussi avant, ce que j'ai toujours fait de la radio avec le label où j'écoute beaucoup la musique des artistes émergents parce que c'est mon rôle en tant que label de faire ça. Et donc, je vais continuer le label, mais c'est vrai que les dates, j'en ferai beaucoup moins.
Bon, rassurez-vous, il peut raconter ce qu'il veut. Il n'est pas prêt de prendre sa retraite. C'est mon avis
par rapport
très
à la
personnel.
Musique, non. Ah non, mais j'écouterai de la musique jusqu'au bout, ça c'est sûr. Et puis je trouverai un moyen de la partager.
Voilà.
Ah, mais ça c'est clair. Non, mais ça là-dessus, je ne pourrai jamais m'arrêter d'écouter de la musique. En tout cas, je ne pourrai jamais m'arrêter de faire un travail où je partage. Et moi, je suis. Venir ici cuisiner, c'est un kiff total. Avec ma brigade, là, on s'éclate. On rigole beaucoup, par contre on bosse parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de couverts, mais j'ai l'impression de participer au festival autant que si j'avais joué. Pour moi c'est aussi important et qu'aujourd'hui on me dise mais vraiment les feedbacks sont super, il paraît que c'est vraiment bon ce que vous faites. Ça c'est le plaisir en fait. Et pour moi je fais la même chose et je prends autant de plaisir à faire ça. Même si je suis bloqué dans ma cuisine et que j'ai vu personne, c'est super, je suis heureux.
Oui, mais tu aimes bien aussi voir les gens, rencontrer les gens, les sentir pas loin de toi.
Une fois de temps en temps, ouais, j'aime bien, ouais, ça c'est sûr.
Alors, on n'a pas parlé de tout, mais je pense que les gens qui te connaissent, et on les a un peu survolés. Moi, ce qui me frappe chez toi, c'est le nombre de facettes de ta personnalité. Tu as été DJ, tu as écrit un livre, tu as participé à un documentaire sur toi, tu as eu plein de projets, tu passes ton temps à faire des choses qu'on te dit que tu ne devrais pas faire parce que tu vas te casser la gueule, des lives par exemple.
Ah oui, enfin,
la liste est longue, hein, des choses. Ouais, la cuisine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te. Une ligne directrice dans tout ça, selon toi ?
Partage. Le partage. C'est que le partage, je pense, vraiment. Je pense que j'arriverai pas à faire un boulot où je n'arrive pas à partager quelque chose avec des gens. Voilà. Vraiment, c'est que le plaisir et le partage. Je suis mon cœur, Alexis. Et en fait, moi, j'adore apprendre. Donc, aller en cuisine pendant le Covid et dire à la chef, mais attends, moi, je cuisine pas vraiment, en fait. Moi, je viens et je sais que je suis carré. Tu me dis de faire tout ça, je le fais. Tu me dis de nettoyer, je nettoie. Je peux faire la plonge, je peux faire tout ce que tu veux. J'ai aucun problème à faire ce genre de truc-là. Mais il faut que ça ait du sens et il faut qu'on on fasse plaisir à des gens. Il faut qu'on partage ça avec d'autres gens. Et normalement, tu connais un peu notre cercle d'amis. On est tous un peu comme ça, en fait. On aime bien partager des choses et faire des choses ensemble. Construire quelque chose.
Je suis un peu gêné parce que j'ai pas mal d'amis artistes et dès qu'ils ont le dos tourné, j'en dis beaucoup de mal parce qu'ils ont tous un égo surdéveloppé. Et je dois confirmer que tu n'es pas totalement comme ça.
Hein ?
Et je dois confirmer que tu n'es pas totalement comme ça.
Quoi ? Surdéveloppé ?
Tu n'as pas un égo
surdéveloppé du tout, non.
Tu n'es pas ultra auto-centré comme
beaucoup de musiciens. Non, je suis pas. Non, je suis pas chiant.
Et c'est très touchant.
Non, je suis pas très chiant.
De toute façon, on va arrêter de. Ça va t'amener où cette histoire de cuisine ? Tu vas continuer aux valseuses une fois par
semaine ? Non, les valseuses.
Si tu joues moins.
Non, là, ils viennent de vendre les valseuses. Donc là, il y a un nouveau propriétaire. Mitsuko, la chef, elle continue pendant un an parce qu'elle fait la passation. Et Victor, qui était un des directeurs des valseuses, il continue là-bas pendant un an. Mais Pierrot, qui était l'autre patron, lui, il est potier aussi. Enfin, on est tous multifacettes. Et donc Pierrot, il continue la poterie. Et on parle ensemble. On discute.
D'accord.
Pour l'instant.
OK.
On discute. On discute beaucoup, d'ailleurs. Et puis on boit des bouteilles de vin.
Avec plein de sulfites.
Avec, wow,
à 15 degrés.
Eux, ils aiment bien aussi le naturel.
Personne n'est parfait.
Ah, je sais, c'est une horreur.
Voilà. Je pense qu'on on s'est dit pas mal de choses. Hein. C'était assez émouvant. Moi, je toujours aimé te parler. Passons. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser à Laurent ? Je peux faire passer le micro ? Ah, tu vois.
Je regarde l'heure parce que je dois aller en cuisine après. Oui, oui.
Bonjour Laurent.
Salut.
J'avais une question, donc je vais repartir un peu en musique. Tu disais tout à l'heure que tu ne trouvais pas forcément cohérent de passer de la musique pendant le confinement. Quelle différence ?
Non, je n'ai pas dit de passer de la musique, j'ai dit d'écouter de la techno.
Ah, ok.
Parce que je trouvais que ce n'était pas adéquat par rapport à la période qu'on vivait.
Okay.
Par contre, j'ai écouté quand même pas mal de musique, mais pour moi, la musique... Excuse-moi, je te coupe et en fait, j'ai même pas... Finis ta question,
non,
s'il te plaît.
Non, c'était plus aussi pour
revenir
à... parce que du coup, moi, j'écoute pas mal Deep Search et j'écoutais même à l'époque où tu faisais encore sur... Enfin, ça passait sur SoundCloud. Et donc, c'était ça, c'est... Comment est-ce que ça t'est venu de faire cette émission qui est pas mal, qui est assez différente finalement, puisque du coup, tu perds peut-être un peu ce lien avec le public, puisque finalement, tu n'en as pas, mais est-ce que tu te nourris des réactions que tu as
Les réactions, j'en ai pas tant que ça. J'ai pas mal de gens qui me disent c'est super, continue, on adore l'émission, mais en fait, je fais de la radio depuis très longtemps. parce que j'ai bossé à Nova, j'ai bossé même sur Fun, j'ai bossé sur une vieille radio qui s'appelait Maximum. Et puis même quand j'avais 14 ans, j'ai fait mes premières émissions de radio à 14 ans, dans les années 80, avec mon voisin qui avait fabriqué un émetteur. Et on faisait une émission de radio pour les potes de l'école, voilà, de la 3e et tout ça. Et on branchait nos copines comme ça. Tiens, je te passe un petit Bob Marley, c'est pour toi, Sylvie, Nathalie, bim boum. Voilà, j'ai commencé comme ça à 14 ans. Bon, maintenant, je ne fais plus ça à Deep Search. Mais le truc de Deep Search, c'est quand même de se dire on est dans une période où beaucoup de gens aujourd'hui écoutent la musique par le biais des plateformes. Il y a beaucoup de trucs sur les hashtags et sur tout ça, et les algorithmes. Et je trouve que c'est dommage aujourd'hui. En fait, il y a moins de personnes qui vont sortir de chez eux pour aller ou chez un disquaire ou quelque part pour chercher de la musique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la musique vient beaucoup à nous. Et je pense qu'il y a moins de monde qui vont vers la musique. Après, on aime tous la musique, on est d'accord. Mais en général, je vois, même ma femme qui écoute énormément de musique, je vois qu'elle reçoit plus maintenant par rapport à avant où elle cherchait plus. Voilà. C'était un espèce de constat. Il y a ça, et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il sort sur les plateformes de streaming 1 million de morceaux toutes les semaines. C'est les chiffres. Et donc, vous pouvez aimer autant de musique que vous voulez, on n'y connaît rien. Et plus j'en écoute, et plus je me rends compte que je ne connais absolument rien en musique. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a tellement de trucs à découvrir. Et donc, l'idée de Deep Search, c'était de me dire, moi, j'ai le temps. J'adore ça, chercher de la musique. Je pense que tout le monde n'a pas forcément le même temps que moi j'ai par rapport à ça. Et donc, je vais aller diguer comme un malade tous les jours. Et j'écoute à peu près 510 par jour. Et c'est vrai. Alors, je ne les écoute pas du début jusqu'à la fin. On est bien d'accord.
Je confirme. Hein, il écoute rapide parfois.
Voilà, j'écoute très rapide. Mais quand c'est chiant, je vais pas non plus. C'est pas du supplice. Et donc, j'essaye d'écouter quasiment 500 trucs par jour. Et j'écoute de tout. Donc, j'écoute du hip-hop, de la folk, du reggae, de tout. Alors je vais sur plein de sites différents, sur Bandcamp j'ai 200 ou 300 labels où je suis abonné, donc je sais quand ils sortent des disques, et j'essaye de tout écouter. J'écoute tout, et après je mets ça dans des dossiers, et puis après je dispatche. Parce que je voyage beaucoup, donc ce qui est cool, c'est que maintenant avec les ordi portables, on peut écouter beaucoup de musique.
Vous comprenez le truc avec les gyoza, le truc méticuleux? Il est à peu près aussi méticuleux quand il fabrique des gyoza que quand il écoute des disques et qu'il les range.
Ouais, c'est bien rangé, c'est super rangé. Et voilà, et l'idée c'était de me dire, je vais aider les gens à essayer de se retrouver dans ce bordel, parce qu'il y a tellement de musique et c'est vrai qu'on peut se noyer hyper facilement. Et donc c'était de me dire, ok, je vais essayer de choper les meilleurs dans tous les styles, parce que j'aime un peu tout, moi, donc je vais essayer de faire des petites sessions d'un quart d'heure, 20 minutes pour que les artistes se fassent un peu voir, quoi. Et c'était l'idée de Deep Search. Voilà, en gros. Désolé, c'était une très longue réponse.
Non, mais on a encore le temps pour une question,
Je peux monter à écart, c'est cool.
Ouais, salut Laurent. Tu parlais de partage, j'étais au Miamao et j'ai trouvé super qu'ils empêchent les gens de prendre des photos et d'avoir leur portable. Est-ce que tu as senti la différence, même s'il y avait une grosse jauge, mais que les gens n'étaient pas scotchés sur leur portable à te filmer ?
Alors, ce qui était compliqué, c'est... Alors, le problème des premières soirées dans un club, c'est que tu essuies un peu les plâtres. Donc, le son était un peu compliqué dans la cabine. Tout bougeait. Donc, ils venaient de finir d'installer comme toujours. Tu es toujours en retard. Et donc, c'est vrai que c'était un peu dur. J'ai dû tout scotcher. J'avais même mes clés USB qui se débranchaient toutes seules tellement ça bougeait. Donc ça prend beaucoup de concentration, donc j'ai moins vu la salle, et en plus de ça la cabine était très basse, et donc il y avait 300 personnes devant et derrière il y avait 3000 personnes, j'ai rien vu. Et c'est vrai que le lendemain j'ai appelé Antoine en disant, tu sais quoi, j'ai pas vu ton club en fait, je sais pas à quoi ressemble le club, donc je peux pas te répondre vraiment. Je savais qu'ils faisaient nos téléphones, et ça c'est un truc qu'ils font à Berlin depuis bien longtemps, et vraiment il faut qu'ils le fassent dans plus d'endroits, parce que On est dans des périodes où les gens ont de moins en moins l'habitude de s'abandonner. Et le vrai truc d'un dance floor, c'est que les gens s'abandonnent complètement à ce que le DJ va jouer, et on prend par la main et tu oublies tout ce qui se passe autour. Et là, maintenant, avec les téléphones, ça devient plus difficile. Donc je trouve ça très bien qu'ils fassent une politique sans téléphone. C'est très bien. Bon, il y avait quand même des images de lendemain. J'en ai vu passer.
Une autre question ? Ah.
Après, je dis ça, il y a eu pas mal de vidéos au Rex et on se rend compte de la beauté de la soirée aussi. Donc, c'est. Voilà, je dis tout et son contraire, mais je préfère les endroits où. Où les gens sont concentrés sur la musique ou sur leurs potes ou autre chose que les téléphones, parce qu'on passe tellement de temps dessus, quoi. C'est fatigant.
Bonjour Laurent, je voudrais savoir ce que tu penses de l'émergence de l'IA dans la musique. Et
de
l'IA ou de l'AI dans la musique. Et est-ce que tu penses que ça peut être un danger pour la création dans le futur ?
Je suis pas quelqu'un qui flippe beaucoup. Je pense que ça peut apporter des choses, mais déjà, moi, je l'utilise un peu... ça dépend comment on utilise ça. Si des gens rentrent, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais est-ce que tu peux rentrer 10 morceaux et dire tu m'en sors un 11e qui ressemble à ça ? Ça, c'est un peu triste. Mais aujourd'hui, il y a des programmes géniaux qui, moi, en tant que DJ, me permettent de sortir un morceau en stem et pouvoir isoler la voix, donc avoir l'a cappella si j'ai envie de l'utiliser.
Je ne sais pas ce qu'est sortir un morceau en stem, mais ce que je constate,
en plus, c'est, pareil.
C'est que... Ouais. C'est que, en réalité, aujourd'hui, même si on a tous peur de l'IA, tout le monde l'utilise déjà, en fait. Beaucoup de musiciens l'utilisent déjà. Puis... Dans le cinéma, on l'utilise déjà. Mais c'est quoi la limite ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est une utilisation vertueuse et qu'est-ce qui devient quelque chose de problématique ?
Ça, je ne sais pas. Je pense que le mec qui ne fait plus rien et qui clique sur deux boutons pour dire « fais-moi un morceau » et qui va mettre son nom derrière... Ce n'est pas super vertueux, mais bon, après, même nous, on ne le saura même pas, en fait. En fait, il y a un moment, on ne saura pas. Je ne pense pas que l'IA va pouvoir... C'est comme les algorithmes et les hashtags. Les hashtags et les algorithmes, ils marchent avec des mots. Mais demande à un logiciel de « sors-moi des morceaux vraiment funky ». Mais quand je parle funky, je ne te parle pas de funk. Je te parle de trucs qui te font bouger, là. Ça, c'est plus difficile. Ils ont du mal, donc je ne sais pas si Léa va arriver à un point. Elle va pouvoir analyser peut-être James Brown et sa façon, ou le percussionniste de James Brown, comment il joue. Mais il y a un moment où ça ne va pas forcément de sortir un truc vraiment funky, quoi. Donc je ne sais pas jusqu'où on peut aller avec ça. Moi, en tout cas, la façon dont je l'utilise, c'est cool parce que je peux isoler des parties sur des morceaux et me faire des edits pour mes trucs DJ, donc c'est génial.
Tu l'utilises comme un outil de plus à ton service.
Pour moi, c'est un outil de plus. Après, moi, ça ne me fait pas peur, tout ça, la technologie. C'est bien, on l'utilise vachement, en fait.
On prend une dernière question et après, on va te laisser aller bosser. Non ? Si ? Non ? Personne ? Bon,
merci Laurent. Merci à vous tous. Merci beaucoup.